Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
La dernière fausse note de Charlotte Ehrlich aux éditions Nathan. C'est un roman bien écrit et délicat qui nous fait accompagner Clémentine tout au long de son deuil. Elle vient de perdre son père avec qui elle partageait l'amour de la musique. Après avoir rejeté son violoncelle, c'est malgré tout le pouvoir de la musique qui l'aidera à se reconstruire. Les personnages secondaires sont attachants et l'amitié de Yara la soutiendra pas à pas et lui permettra d'accueillir un nouvel amour et de retrouver le bonheur de jouer en public. C'est une histoire très émouvante à partager, peut-être. Clem, ton mi bémol.
Quoi, mon mi bémol?
Il est trop haut.
Non.
Si, c'est presque un mi bécard.
C'est pas vrai, puis laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé.
Clem, un entre-ton, je te prie.
Nia, 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 nia.
Clémentine, ça suffit maintenant. Quand je travaille mon violoncelle que mon père est là, ça finit toujours mal. Chaque fois pourtant, je m'y mets dans un bon état d'esprit. Je me dis aujourd'hui, ça va bien se passer. Je vais écouter papa sans m'énerver. La musique, c'est quand même son truc. Il est premier violon de l'Orchestre National de Bordeaux. Mais quelques remarques de sa part et ça tourne au vinaigre. C'est plus fort que moi. Je ne supporte pas que mon père me dise que je joue faux, que mon archet est sur la touche, que je ne vibre pas assez ou je vibre trop. Sans doute parce qu'au fond, je sais bien qu'il a raison. Bien sûr que mon mi bémol est trop, je l'ai entendu, je suis pas sourde. Ça sert à quoi qu'il me le dise? Comme si ça n'était déjà pas assez frustrant de se tromper. Souvent, maman intervient pour dénouer nos crises, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Et je dois bien avouer que je suis d'une humeur particulièrement massacrante. Avec mes parents, on a déménagé cette année pour que je me rapproche du Conservatoire de musique de Bordeaux. Avant, on vivait à Talence. Moi, je le trouvais bien, le Conservatoire de Talence. Mais d'après mon père, il ne l'était pas autant que celui de Bordeaux. Et si je veux devenir un violoniste, il me faut un très bon conservatoire. Ouais, sauf que dans le déménagement, j'ai perdu tous mes copains de sixième, que je connaissais depuis le primaire ou la maternelle. Et dans ce nouveau collège, je suis seule ou presque depuis 3 mois. Pour que ma solitude ne se remarque pas, je traîne avec Yara. Elle vient d'arriver du Portugal et parle à peine français. Génial pour discuter. Ça, c'est la situation de base, pas extra, mais suffisante pour justifier mon humeur de chien. Ce qui m'a achevé, c'est ce qui s'est passé ce matin. Prof de musique prépare un concert de chant pour Noël. Problème, c'est qu'au début de l'année, on a rempli des fiches, et dans ces fiches, on devait préciser si on pratiquait un instrument. Et moi, je ne me suis pas méfiée. J'ai indiqué que je jouais du violoncelle. Du coup, elle m'a réquisitionnée pour accompagner la chorale. Je me suis pointée ce matin avec mon violoncelle. J'ai oublié de vous dire que je suis petite et fluette. Et quand je porte ma boîte à violoncelle sur le dos, je disparais quasiment derrière. Il faut croire que c'est comique parce qu'en m'en voyant arriver ce matin, ils se sont tous moqués de moi. Lorsque j'ai sorti mon instrument, les gloussements ont redoublé. Et plus la prof me félicitait, et plus la situation empirait. Anatole et Rémi, les deux garçons, mimaient mes gestes en pouffant.
Margot, Allison et les autres se sont mis à faire pareil. Toute la journée, j'ai entendu dire à droite et à gauche que je faillotais, que je me la pétais. Alors que moi, je faisais juste ce qu'on m'a demandé. Il n'y a que Yara qui m'a encouragée. Mes copains d'avant m'ont manqué encore plus que d'habitude. Je me sentais super mal. J'avais envie de pleurer. Et en rentrant à la maison, autant dire que je n'ai pas entamé mes gammes dans une disposition très positive. Et quand il m'a reproché que mon mi bémol était trop haut, j'ai direct explosé. À présent, il continue de vociférer que j'ai un caractère de cochon, qu'au lieu de faire mes grades, je devrais profiter de la chance que j'ai de l'avoir à mes côtés. Un père pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Je boue, mais c'est lui qui ne se rend pas compte. Tous les soirs, tous les week-ends, pendant que les autres de mon âge jouent ou rêvent, ou passent du temps les uns chez les autres, moi je travaille mon instrument, mais c'est comme ça depuis que j'ai 6 ans. Et d'un coup, ça m'apparaît comme une évidence. Je range mon violoncelle dans son étui et j'annonce à mon père « J'arrête le violoncelle, c'est fini. Plus jamais je n'en jouerai. Je veux une vie normale. » Et je sors du salon, sans lui laisser le temps de réfléchir. Je vais me faire chauffer une pizza. À l'idée d'arrêter le violoncelle, je me sens déjà plus légère. Une heure et demie de pratique quotidienne, le solfège le mardi, le cours d'instrument le mercredi après-midi, l'orchestre le jeudi et 3 ou 4 heures de travail le samedi et le dimanche. Ça ne me donne pas un paquet de temps libre tout ça, mais c'est comme si je venais de m'offrir d'immenses vacances. Je vais pouvoir faire plein de choses à la place. Quoi d'ailleurs ? Bon, là, ça ne me vient pas tout de suite, c'est normal. Je ne m'étais jamais posé la question. Mais je trouverai.
Mamma Mithy, la mère des arbres, un album de Claire Nivola, traduit par Ariel Marini, aux éditions du Sorbier, en collaboration avec Amnesty International. L'histoire exemplaire de Wangari Maathai, prix Nobel de la paix. Wangari Maathai est née au Kenya. Adolescente, elle part aux États-Unis faire des études de biologie. Lorsqu'elle revient dans son pays 5 ans plus tard, elle ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, les rivières sont à sec. Les jardins individuels qui nourrissaient les familles ont été remplacés par des cultures industrielles, thé, café ou fleurs. Face à la déforestation, celle que les Kenyans surnomment affectueusement Mamma Mithy, la mère des arbres en Swahili, a alors une idée simple mais grande. À la place des montagnes boisées où paissaient jadis des vaches et des chèvres, il n'y avait plus désormais que des champs. Presque tous les arbres avaient été coupés pour faire place aux cultures, et les femmes et les enfants devaient aller chercher du bois pour le feu de plus en plus loin. Parfois, ils marchaient pendant des heures avant de trouver un arbre ou un buisson. Et chaque fois qu'ils en coupaient un, la terre se dénudait un peu plus. Sans arbre, il n'y avait plus d'ombre, ni de racines pour fixer la terre et empêcher l'érosion. Le sol se desséchait et se transformait en poussière qui s'envolait au vent du diable. La pluie lessivait la terre qui souillait les rivières autrefois limpides. « Nous n'avons plus d'eau potable », se lamentaient les femmes du village. « Et plus de bois pour cuire nos repas. Nos vaches et nos chèvres ne trouvent plus rien à manger et elles ne donnent plus assez de lait. Nos enfants ont faim. Nous sommes plus pauvres qu'avant. » Les gens qui autrefois honoraient les figuiers n'hésitaient plus à les couper. Ils ne prenaient plus soin de la terre. Et désormais, le sol affaibli, souffrant, ne pouvait plus les nourrir de sorte que leur vie devenait de plus en plus dure. Les femmes se fâchaient, accusaient le gouvernement, mais Wangari n'aimait pas se plaindre. Elle voulait agir. « Réfléchissez plutôt à ce que vous faites, » disait-elle aux villageoises. « Vous coupez les arbres du Kenya. Quand vous comprendrez que vous êtes en partie responsable du problème, vous aurez une partie de la solution. » Elle avait une idée simple, mais grande. « Pourquoi ne pas planter des arbres ?» suggéra-t-elle. Et ça va être le début d'un mouvement qui va prendre une grande ampleur. Avec la conviction que chaque arbre planté est un espoir de paix, elle fonde en 1977 le mouvement de la ceinture verte. Plus de 30 millions d'arbres vont être plantés pour éviter la désertification des villages et l'érosion des sols, facteur d'appauvrissement des populations rurales. Cette prise de conscience selon laquelle le respect de l'environnement a une influence directe sur le développement humain, ainsi que ses combats politiques en faveur des droits de l'homme, lui valent en 2004 d'être la première femme africaine à obtenir le prix Nobel de la paix. « J'ai toujours pensé, dit-elle, que notre action ne se résumait pas à planter des arbres. Elle doit permettre aux hommes de comprendre que, en protégeant leur environnement, c'est eux-mêmes, leur vie et leur avenir qu'ils protègent. » Les illustrations sont superbes, presque naïves et très parlantes. Elles touchent beaucoup les enfants, qui y découvrent une foule de détails. L'histoire est présentée un peu comme un conte, et il faut bien le dire, un peu édulcorée. On n'y parle pas, par exemple, des répressions gouvernementales. En effet, dans la réalité, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Dans sa croisade écologique, Mamamity se heurte alors de plein fouet au régime. Elle est victime de brutalité policière, de harcèlement, et se retrouve à maintes reprises derrière les barreaux. Mais, en ardente militante, jamais elle ne cède. Une partie documentaire, à la fin de l'album, replace la légende dans la réalité. Mamamity est morte en 2011 à l'âge de 71 ans. Son combat est encore évidemment très actuel, et pas seulement en Afrique. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire une autobiographie destinée aux adultes, « Celle qui plante des arbres » de Wangari Maathai. Et vous pouvez écouter Mamamity elle-même raconter la légende du colibri sur YouTube. Enfin, cette histoire fait évidemment penser au merveilleux livre de Jean Giono, « L'homme qui plantait des arbres ». De belles lectures en perspective.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et faire lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog lire et faire lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.